Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le temps du débat consacré ce soir à la parole anonyme. Qu'apporte-t-elle au débat public ? Peut-on discuter et débattre entre anonymes ? Comment qualifier et analyser cette parole qui a pris une place importante dans nos interactions en ligne ? L'anonymat est-il toujours bien compris et défini ? Existe-t-il réellement dans nos sociétés numérisées où le moindre clic semble tracé, tantôt perçu comme le visage de la haine ? L'anonymat serait pour certains la voie d'un exutoire, outil cruel de lynchage en ligne. L'actualité nous le rappelle souvent, mais il est aussi le lieu de la liberté d'expression indispensable pour s'affranchir de certains carcans, le moyen de partager révélations et d'éclairer des sujets sensibles. L'anonymat est-il un acquis démocratique ? Qu'apporte-t-il au débat public ? Et comment celui-ci pourrait être menacé ? Voici les nombreuses questions qui vont agiter notre dernière émission de la semaine. Et pour en débattre, nous recevons Benjamin Teinturier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant au Media Lab de Sciences Po. Votre thèse est consacrée au renouvellement de l'engagement militant de la droite radicale sur Internet et les médias sociaux. Et pour vous, la préservation de l'anonymat en ligne serait aujourd'hui grandement menacée. Romain Pigenel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la stratégie à l'Institut du Monde Arabe et enseignant en communication politique. Et vous êtes farouchement opposé à la levée de l'anonymat en ligne. Enfin, Mélusine, bonsoir.
Bonsoir.
Mélusine, c'est le nom de votre compte Twitter, là où vous exprimez librement sur des questions de société. Vous êtes une militante antiraciste et féministe et vous nous expliquerez ce que l'anonymat, ou plutôt le pseudonymat, vous offre dans votre vie en ligne et en dehors. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h sur France Culture.
Qui êtes-vous ?
Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que ? Et ce que je suis, c'est un homme sous un masque.
Ça, je le vois.
De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation. Je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est.
L'anonymat, c'est une horreur. Pendant la guerre, il y avait plein de gens qui écrivaient des lettres anonymes.
C'est ce qui fait ressortir mécaniquement ce qu'il y a de pire chez chacun, l'anonymat. On le sait bien.
Bien sûr.
Je vais te rappeler la guerre.
Tout ce qui est anonyme, il faut virer ça des réseaux sociaux.
Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat.
J'aime bien me fondre dans la masse. Comme des masques qu'on met, qu'on enlève. Si je dis quelque chose avec le compte Monsieur le Prof et si je dis la même chose avec un autre compte, les réactions ne vont pas être les mêmes. Moi, je trouve ça assez passionnant. Et l'idée qu'on peut se faire une identité qui a plus de place que nous.
Sauf cas exceptionnel, on a toujours les moyens techniques de remonter jusqu'à l'auteur d'une infraction. La loi le permet déjà, et le problème, c'est plutôt la lenteur et la difficulté de la procédure, surtout pour des gens ordinaires.
Petit mixage introductif sous la musique d'un petit groupe français masqué hein, qui s'appelle Daft Punk. Alors Mélusine, on va commencer avec vous. Alors merci déjà d'avoir accepté de vous rendre en studio pour que vous puissiez participer à ce débat sur l'anonymat tout en le conservant. Alors du coup, on a légèrement modifié votre voix de quelques octaves, je crois. Alors première question, pourquoi utiliser un compte anonyme ou un pseudonyme pour vous exprimer sur Twitter ? Et si vous pouvez nous faire une petite distinction entre l'anonymat et pseudonymat.
Alors d'abord, c'est important de distinguer les deux parce que l'anonymat, c'est l'absence d'identité, le fait de ne pas se présenter sous une identité, de ne pas être reconnaissable. Le pseudonymat, c'est très différent puisqu'en fait, c'est une deuxième identité, c'est un nom, c'est donc une réputation, c'est un certain nombre de règles sociales qui continuent de s'appliquer et qui s'appliquent dans le temps. Et il me semble important de souligner qu'en fait, le pseudonymat, c'est la règle sur Internet, la règle, plutôt l'habitude. En fait, sur Internet, bien avant les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, la plupart des gens se connectent sans donner leur état civil, ils donnent un pseudonyme. Et d'ailleurs, c'est une consigne qu'on donne aux enfants. Quand ils utilisent Internet, on leur dit bien, ne mets pas ton nom et ton prénom, mets un faux nom, mets un pseudonyme. Donc en fait, quand j'ai créé mon compte Twitter il y a quelques années, c'était évident de choisir un pseudo. C'est ce que font la plupart des gens. Et en réalité, les seules personnes qui se posent la question d'apparaître sur ce genre de réseaux sociaux avec leur état civil, c'est les gens qui, par leur activité professionnelle, par leur statut public, parce que ce sont des personnes politiques, parce que ce sont des artistes, ont besoin d'apparaître sous leur état civil. En fait, c'est cette pratique qui est marginale et pas du tout le pseudonymat.
Oui, c'est important de le rappeler. C'est vrai que c'est dans la pratique, c'est dans l'usage d'Internet d'utiliser un pseudonyme. Et on reviendra justement sur comment votre compte Munusine, du coup, a obtenu une notoriété par rapport à vos propos que vous avez développés depuis 7 ans, je crois, depuis sa création en 2014. Romain Pigenel, on a bien vu que certaines personnes s'affichent en leur nom quand ils sont journalistes, avocats, quand ils ont une certaine forme de notoriété. Puis il y en a aussi dans, au sein même de ces corporations, avocats, policiers, enseignants, qui vont utiliser un pseudonyme. En quoi c'est intéressant pour eux? En quoi ça devient une possibilité de s'exprimer librement?
D'abord, pour revenir un petit peu en arrière, je crois que ce qui est important, effectivement, comme on vient de le dire, c'est de dire qu'il y a une distinction entre l'anonymat tel qu'il est fantasmé, notamment quand on le critique politiquement, qui n'est en fait qu'une réalité extrêmement minime, hein, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas traçables en ligne, pas du tout, on parle d'une petite minorité d'internautes qui sont des cybercriminels, des services de renseignement, etc. Donc déjà, il faut se méfier de ce mot qui est un terme piégé. Après, quand on parle de pseudonymat, ce que vient de dire Mélusine le souligne, il n'y a pas un pseudonymat, mais des pseudonymats. Il y a, comme vous l'avez dit, des professionnels qui utilisent un pseudonyme pour, simplement parce que pour des raisons de déontologie, de lien avec leur employeur, de code éthique, ils ne pourraient pas parler sous leur vrai nom, témoigner de ce qu'ils voient dans leur profession. Et parfois, ça concerne aussi des lanceurs d'alerte. Mmh. Vous avez après toute une population, et à mon avis, elle est majoritaire, qui en fait utilise un pseudonyme parce que sur beaucoup de réseaux sociaux, par défaut, quand vous créez un compte, on vous crée un compte avec un pseudonyme. Donc ça n'a pas une portée intentionnelle, morale ou autre. Et puis, à l'intérieur de cette vaste ensemble des pseudonymes, vous avez une autre minorité, mais qui est très visible, effectivement, de militants sous pseudonyme qui sont dans des logiques de harcèlement, d'attaque. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour un certain nombre d'entre eux, ils sont en fait des militants de partis politiques dont les responsables réclament par ailleurs la levée de l'anonymat. Donc je pense que c'est important, en plus de la distinction entre anonymat et pseudonymat, de voir que le pseudonymat, c'est pas une réalité homogène et ça recouvre un grand nombre à la fois d'acteurs et un grand nombre de pratiques sur lesquelles on peut pas porter un jugement manichéen et définitif.
Alors vous parlez justement de ces militants qui propagent une forme d'harcèlement en ligne. Alors je pense qu'il n'y a pas que des militants non plus de partis politiques qui propagent justement cet harcèlement. Parlons à Benjamin Teinturier qui a beaucoup travaillé, analysé justement sur la parole antisémite entre autres, mais aussi d'extrême droite sur les réseaux sociaux et sur Internet. En quoi justement l'anonymat, on va dire l'anonymat, hein, j'ai compris que ça peut être le pseudonymat, mais en quoi l'anonymat peut-il engendrer des problèmes par rapport à la propagation de cette parole antisémite ou cette parole de la haine?
Alors des cas de harcèlement sur Internet, des cas de harcèlement organisé, bon, il y en a tout un tas. Il y en a un qui a pas mal défrayé la chronique en 2017, à l'été 2017, vous avez cette jeune journaliste qu'on appelle Julie, et dans le traitement de l'affaire, c'est le nom qui est resté, qui écrit dans un petit quotidien lyonnais un article sur un bar à rhum qui vient de, où on déguste du rhum, qui vient d'ouvrir et qui s'appelle La Première Plantation. Et en visitant ce bar, elle se rend compte que les personnes qui tiennent le bar, hein, c'est des nostalgiques du temps des colonies, si vous voulez. Et donc, elle écrit un article tout à fait à charge sur son expérience, et peu de temps après, vous avez une personne très importante du militantisme de droite radicale, s'appelle Boris Lelay, qui est le directeur du site Démocratie Participative, qui invite sa communauté d'internautes à tomber sur cette Julie, à la harceler, etc. Et là, vous avez une pratique qui s'appelle le doxing qui se met en place où les différents militants vont révéler des informations personnelles sur cette Julie. Et le problème, les recours légaux sont très compliqués. D'ailleurs, on entendait dans le petit mixage que vous avez passé une remarque sur la façon dont on peut tracer la responsabilité dans le harcèlement. On peut le faire, mais c'est extrêmement long, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, comme le site de Boris Lelay est hébergé aux États-Unis, il a été extrêmement compliqué, voire impossible, de remonter pour avoir l'identité de ces multiples harceleurs, de pouvoir faire supprimer leur poste. Et ce qu'elle a pu obtenir, ça a été simplement la disparition, le déréférencement, pardon, sur Google de tout un tas d'articles à son sujet, cette Julie, ce qui est quasiment rien. À l'heure des réseaux sociaux, vous pouvez tout à fait partager des articles sur les réseaux sociaux sans passer par Google.
Non, mais c'est justement ça, on a l'impression quand même que ce que l'anonymat peut engendrer engendrer, c'est un peu un effet déculpabilisant. C'est-à-dire, après tout, si je suis pas dans mon entité, je vais me permettre d'avoir une parole plus libérée. Mais Lusine, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que ce constat doit être vraiment nuancé. On constate assez facilement sur Internet qu'il n'y a pas besoin d'être anonyme pour se livrer à des propos haineux, incitant à la haine raciale ou homophobe ou sexiste. On le constate évidemment dans les commentaires des journaux en ligne. Je veux dire, les commentaires du Figaro préexistent à Twitter. On le constate également sur les réseaux sociaux comme Facebook, où il est plus naturel d'afficher son état civil. Il y a énormément de messages qui ne sont pas modérés et qui sont particulièrement violents sur ce réseau social. On constate également le rôle que des gens qui affichent leur état civil jouent dans la diffusion des fausses nouvelles, des idées complotistes, notamment en ce moment dans la période de crise sanitaire. Donc il me semble que c'est assez rapide de dire que c'est l'anonymat sur Internet qui favorise l'expression de la violence. Je pense que ce qui favorise l'expression de cette violence, c'est un sentiment d'impunité, mais qui n'est pas tant lié à l'anonymat, parce que comme l'ont répété Monsieur Pigenel et Monsieur Teinturier, la police aujourd'hui et la justice ont tout à fait les moyens, tant légaux que techniques, de remonter la piste des harceleurs ou des personnes qui se livrent à des violences verbales sur les réseaux sociaux. Le problème auquel on fait face, c'est vraiment un problème de moyens et d'attention des pouvoirs publics vis-à-vis de ces questions, puisque la loi aujourd'hui permet tout à fait de remonter jusqu'à ces personnes et de les faire passer devant un juge.
Je suis d'accord avec vous, Mélusine. On l'a bien vu justement récemment avec l'affaire Milan, dont on parlera peut-être un peu plus tard dans cette émission. Mais encore faut-il lancer une procédure, encore faut-il justement se donner les moyens de convoquer la justice. Romain Pigenel, pour vous, c'est pareil, il n'y a pas forcément un effet déculpabilisant par rapport à cette parole anonyme ou ce que l'anonymat pourrait provoquer ou engendrer?
Moi, je crois qu'il faut être honnête et pas nier que, de toute évidence, on se permet sous pseudonyme ou autre des choses qu'on se permettrait pas autrement. Et d'ailleurs, là encore, il n'y a pas des, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas des harceleurs par nature. On voit parfois des comptes qui ont une activité tout à fait normale, qui tout d'un coup, sur une polémique, parce que ça les touche personnellement, se mettent à se joindre à la Lali, à insulter une personnalité publique ou autre. Donc, c'est vrai qu'il y a un effet, probablement, de libération de la parole. Moi, je nie pas cela. Mais ça reste un facteur parmi d'autres. Et j'en veux pour prose, un exemple qui est tout à fait intéressant, qui est l'exemple de LinkedIn. LinkedIn, finalement, c'est le réseau rêvé des personnes qui veulent abolir le pseudonymat ou l'anonymat en ligne. C'est un réseau sur lequel on va sous son vrai nom, sous sa vraie identité, etc. Si vous allez voir, en général, sur LinkedIn, les propos sont extrêmement lénifiants parce qu'en plus, les personnes représentent leur entreprise, etc. Mais si vous faites l'exercice d'aller voir les commentaires sous les profils de personnalités politiques qui sont de plus en plus présentes sur LinkedIn, vous voyez que même là, des intervenants avec leur vrai nom et la marque de leur entreprise ou de leur employeur vont parfois se livrer à des commentaires violents, insultants, etc. Donc, on voit bien que si le pseudonymat peut être une condition parfois aggravante, la véritable montée de la haine en ligne, qui est un phénomène qu'il ne faut pas nier, elle est aussi liée à d'autres facteurs qui sont liés à la dégradation générale du débat public, à la défiance envers les élites. Donc c'est peut-être un facteur, mais pour moi, il est clairement pas déterminant ou c'est pas la seule explication.
Et paradoxalement, Mélusine, je vous redonne tout de suite la parole. L'anonymat ou le pseudonymat vous permet aussi, j'imagine, de vous protéger, vous, de harcèlement que vous pouvez vivre ou de raids que vous pouvez vivre si vous en vivez, parce que j'imagine que les propos que vous tenez parfois antiracistes ou féministes peuvent donner lieu à des réactions très vives. Est-ce que justement ce pseudo de Mélusine vous protège?
Oui, en effet, c'est l'une des protections qu'offre le pseudonymat. Comme vous venez de le dire, du fait des positions que je tiens, notamment sur les questions antiracistes et féministes, je subis assez régulièrement du harcèlement de la part notamment de militants d'extrême droite. C'est tout à fait rassurant de savoir qu'ils ne disposent pas ni de mon prénom, ni de mon nom, ni de mon adresse, ni celui de ma famille, et ni celle de mon employeur. Donc tout ça apporte un certain confort, permet sans doute de continuer pour moi et pour beaucoup d'autres militantes et militants leur expression publique, mais il faut pas oublier que ça offre aussi d'autres protections et vous l'avez dit également, celle vis-à-vis de l'employeur, puisque il est tout à fait normal que les citoyens puisse s'exprimer sur des questions politiques, sur des questions de société, également sur des questions intimes comme la famille, la maladie, la sexualité, sans pouvoir être lu par leur hiérarchie, par leurs collègues, par leur famille également. Donc ça permet... ça offre en fait à toutes les personnes qui ne sont pas des personnalités publiques, dont les propos ne vont pas être protégés comme tels. Je pense par exemple aux journalistes, aux personnalités politiques, toutes ces personnes auxquelles on n'offre aucune de ces protections, le pseudonymat vient leur permettre de prendre cette parole qui n'est pas attendue en fait dans l'espace public, et c'est assez nouveau qu'elle soit en possibilité de la prendre. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire aujourd'hui c'est le commun des citoyens qui vient s'exprimer sur la place publique avec un pseudonymat. Il y a quelques décennies, il y a quelques siècles, les journalistes publiaient déjà dans les journaux sous pseudonyme pour des raisons assez proches, c'est-à-dire pour se prémunir contre des conséquences de la part de gouvernement, de la part d'opposants, de la part également d'employeurs. Donc en fait, c'est une pratique qui est tout à fait historique et tout à fait commune en réalité dans notre pays.
Oui, sur un point de vue journalistique, il y a aussi la question de la responsabilité des écrits quand même, ce qui fait que quand un journaliste signe par rapport aux informations qu'il peut divulguer, il en vient ainsi responsable. Mais j'entends bien ce que vous dites sur la possibilité justement de s'affranchir du regard de son employeur, par exemple, puisque le journaliste est quand même protégé par son statut, par le média qu'il représente. Vous, justement, le fait que vous poursuiviez avec ce pseudonymat, parce qu'on a bien compris quand vous l'avez initié, c'était comme ça, comme tout le monde, mais le fait que vous poursuiviez avec ce pseudonymat, c'est pour ces raisons-là, c'est justement parce que vous n'avez pas envie que votre employeur, que votre famille ou je ne sais pas qui porte un regard sur vos propos.
Alors, d'abord, c'est pas en négatif. C'est d'abord parce que je ne vois aucun intérêt à perdre ce pseudonymat. C'est sous ce pseudo que j'ai commencé à m'exprimer, que j'ai commencé à écrire. Je m'y sens tout à fait bien. Donc, c'est plutôt que je n'ai aucune raison d'apparaître sur mon état civil. J'ai rien à vendre. Je compte pas me faire élire. Donc, en réalité, c'est pour moi une pratique tout à fait normale. Évidemment, maintenant que le compte et le pseudonyme sous lequel j'écris est beaucoup plus suivi qu'il y a quelques années, la question de la protection se pose. Si je peux tenir ces positions, c'est parce que mon employeur ne peut pas en prendre connaissance. C'est beaucoup moins le cas, je dois le dire, vis-à-vis de mes proches et de ma famille, puisqu'en fait, un pseudonymat, c'est pas non plus une rupture complète dans son identité. Des gens que je connais connaissent mon pseudonymat, et c'est ce que je voulais dire lors de ma première intervention quand je parlais de réputation. En fait, on ne peut pas tout se permettre sur Internet quand on est sous pseudonymat depuis des années, parce qu'en fait, quand on parle sur Internet, on parle aussi sous le regard de tous les gens qui connaissent notre pseudo. Donc moi, quand je parle aussi sous le regard de mes proches, de mes parents, de mes amis. C'est quelque chose de tout à fait différent de l'anonymat.
Merci beaucoup, Mélusine. On va tout de suite écouter un petit extrait d'actualité.
Tant que tu t'es pas fait violer, ça compte pas. Tania est une putain et une ordure.
France Culture.
Do you know what I feel like doing?
Tu sais de quoi j'ai envie?
I just feel like stabbing.
J'ai envie de te découper le ventre avec un couteau.
Le temps du débat.
Le tribunal considère qu'en écrivant ces messages, les prévenus ont participé à une entreprise de harcèlement qui a eu un impact psychique et physique sur Mila. 11 d'entre eux ont été condamnés à des peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis.
François Saltiel.
Les propos que vous avez entendus au démarrage sont extraits du documentaire Hashtag Salpute qui a été diffusé sur Arte, et vous avez bien entendu compris qu'il s'agissait d'un petit reportage qui couvrait l'affaire Mila, du nom de cette lycéenne qui a été harcelée après des propos tenus sur l'islam. Benjamin Teinturier, quand justement l'affaire Mila est arrivée sur la place publique, il y a encore eu cette volonté de tenter de lever progressivement l'anonymat en ligne. Ce sont des propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette volonté-là? Elle est impossible, elle est injouable?
La volonté de lever l'anonymat en ligne, de forcer, vous voulez dire, de forcer les personnes à apparaître sous visage découvert.
Exactement.
À visage découvert.
Je crois que c'était bien ses propos. Hein. Il parlait qu'il fallait, Emmanuel Macron disait qu'il fallait aller vers une levée progressive de l'anonymat en ligne.
Alors c'est intéressant, ça illustre un conflit quand même entre deux façons de considérer l'espace public. Vous avez traditionnellement l'espace public hors ligne, pour le dire rapidement, qui s'est construit après la Révolution française sur cette idée que le citoyen devait apparaître à visage découvert. Au moment de la polémique sur le masque dans l'espace public, l'anthropologue Frédéric Keck avait signé une tribune dans Le Monde qui rappelait ça, qui rappelait que peut-être on pouvait imputer le retard français dans l'équipement en masque de la population à cette espèce de vieille idée révolutionnaire et cette vieille caractérisation de l'espace public qui peut-être contamine toujours Emmanuel Macron. Et inversement, vous avez la façon dont l'espace public sur Internet est, ou dont on considère qu'Internet et que les réseaux sociaux forment un espace public, où là, la question de la protection de l'identité se pose pas du tout dans les mêmes termes, et je dirais même dans des termes opposés. Alors, soit si on invoque l'histoire du web, dans laquelle vous avez des militants qui constamment depuis les années 60, 70, valoriser cette protection de l'identité. On peut aussi parler de tout un tas de mouvements qui ont été évoqués au début de l'émission par Romain Pigenel, ce qu'on appelle les cypherpunk.
En bon français, bien sûr.
Voilà, exactement, en parallélisme avec Cyberpunk, qui sont des militants, des activistes du web, dont le principal cheval de bataille consiste à protéger absolument l'anonymat sur Internet. Donc je trouve que dans ces propos d'Emmanuel Macron, on voit deux façons de penser l'espace public et la façon d'apparaître dans l'espace public qui s'entrechoquent, oui.
Romain Pigenel, une des leçons qu'on peut tirer justement de l'affaire Mila, c'est montrer à tout le monde que finalement l'anonymat ça n'existe pas sur Internet. Vous l'avez rapidement dit tout à l'heure, mais il y a encore, je pense, beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent dire à peu près tout ce qu'ils veulent sur Internet à partir du moment où ce n'est pas sous leur vraie identité, ils ne seront pas forcément retrouvés. Est-ce qu'il y a au moins cette vertu pédagogique qui a eu lieu par rapport au procès de l'affaire Mila où il y a 11 personnes qui ont été condamnées?
Bien sûr. Alors moi, je suis un peu gêné par le mot vertu parce que ce que le calvaire que subit cette jeune femme est évidemment horrible et donc.
Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Des retombées positives de cette affaire-là.
Là, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est que je pense que cette condamnation, même si ça a été, moi, ce qui m'a un peu surpris, même si je suis pas juriste avec sursis, a été un fait majeur parce que ça a planté un drapeau qui dit clairement aujourd'hui, vous ne pouvez pas, même si vous êtes un jeune, c'est le profil de certains, je crois, diffameur, qui n'a pas un profil de délinquant ou autre, vous ne pouvez pas dire des horreurs sur Internet et vous en tirer de manière sans aucun dommage. Et je pense que aujourd'hui, c'est ce sentiment d'impunité qui est un des vrais problèmes derrière le pseudonymat. Et c'est vrai qu'il y a eu trop peu de condamnations. Et pourquoi il y a eu trop peu de condamnations? Parce qu'il y a eu trop peu de procès, et trop peu de procès pour plusieurs raisons. D'abord parce que, objectivement, je crois que c'était dit au début de l'émission dans notre verbatim sonore, c'est compliqué. Moi, j'y étais mêlé à titre professionnel. C'est vrai que c'est compliqué de mener ce genre de procédure. C'est coûteux, c'est long, il faut avoir un bon avocat pour le faire, et ça met du temps à agir. Et du coup, pour cette raison, et parce que je crois aussi qu'en France, on n'a pas une très bonne culture juridique, beaucoup de personnes pensent que finalement, quand elles subissent ce genre d'acte, il n'y a rien à faire, si ce n'est que serrer les dents, subir ou fermer son compte. Or, il faut porter plainte. Il faut s'appuyer sur les associations, notamment antiracistes, qui peuvent aider dans ce travail-là. Et s'il y avait beaucoup plus de condamnations à des peines de prison lourdes, et peut-être plus lourdes que ce qu'il y a eu dans le cas de Mila, et si ça se savait, et ça se saurait, je pense que ça changerait la vision des choses, notamment des jeunes, qui, il ne faut pas l'oublier, la génération des gens aujourd'hui de 15-20 ans, ils sont nés avec ces technologies, mais on ne leur a pas donné, d'ailleurs pas plus aux plus anciens, les clés d'usage de ces technologies. On parle de pratiques en ligne qui ont 20 ans, mais qui en réalité sont répandues dans l'ensemble de la population depuis 10 ans. Et là, vraiment, je dirais qu'il y a un retard de la société, voire de la civilisation, derrière la technologie. Et il n'y a pas encore, je pense, l'éthique, la pédagogie, l'éducation qui est portée pour faire comprendre aux internautes qu'ils ont un outil extraordinairement puissant entre les mains et qui peut faire énormément de mal s'il est utilisé de la manière dont ça a été le cas contre Mila.
Oui, c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, Mélusine, quand vous disiez, voilà, il y a un pseudonymat, mais il y a aussi ma personne physique dans l'espace physique. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de sensibilisation ou de compréhension parfois pour ces jeunes-là, de se dire que bah, il n'y a pas non plus la vie hors ligne et la vie en ligne. Quoi. Que finalement, quand on insulte quelqu'un en ligne, c'est comme si on l'insultait les yeux dans les yeux. Il y a sans doute un travail de pédagogie aussi à faire à ce niveau-là.
Si je peux me permettre, je suis pas vraiment d'accord sur l'impact qu'a pu avoir le procès des harceleurs de Mila, dans la mesure où 11 personnes sur des centaines, en fait, ça ne fait que conforter le sentiment d'impunité. L'idée, c'est que quand des centaines, voire des milliers de personnes participent au harcèlement d'un même compte, le risque, c'est est-ce que je vais être tiré au sort parmi tous ces gens ? Et en fait, je pars du principe que non, et donc je continue. Je pars du principe que faire un tweet, faire un message, en fait, c'est pas très grave, personne va me choisir, on va pas aller tous ces milliers devant le juge, l'État n'en a pas les moyens, personne n'en a les moyens, donc en fait ça ne va pas arriver. Et je pense que c'est d'autant plus vrai que le harcèlement, c'est pas quelque chose de ponctuel qui arrive une fois tous les 3 mois et là ça donne l'occasion d'une couverture médiatique comme ça a pu être le cas pour Mila. En fait, le harcèlement sur Internet, c'est un flux continu. Moi, par exemple, si je devais porter plainte systématiquement quand je reçois des messages haineux, racistes, sexistes ou de menaces, en fait je porterais plainte plusieurs fois par jour. C'est littéralement impossible. J'ai pas le temps à consacrer à ces plaintes, j'ai pas les moyens, je peux pas engager une armée d'avocats, et si je le faisais, si on le faisait toutes et tous, on bloquerait tous les tribunaux de France. Donc en fait, c'est matériellement, je pense que partir du principe que la solution elle est judiciaire, c'est se tromper. J'étais évidemment pas du tout pour des solutions législatives et techniques qui faisaient reposer l'entièreté de la solution sur les plateformes des réseaux sociaux. Notamment cette idée qu'il faudrait faire un contrôle très strict en amont de tout ce qui se dit. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on est très peu ambitieux sur ce qu'on exige de ces plateformes, du risque juridique qui pèse sur elles. Pour donner un exemple concret, il me semble qu'aujourd'hui, personne ne sait précisément comment sont organisés les services de modération de Twitter, combien de personnes sont occupées à modérer ces propos, quelle est la part de la modération automatique et quelle est celle qui est faite par des vraies personnes humaines qui sont capables de dire ce message cite des propos violents, ce message est violent, ce message représente une menace et je dois le supprimer. Je pense que plutôt que se tourner vers cette solution individuelle, il y a une vraie solution collective à faire porter en rendant responsables les plateformes, au moins en partie de ce qui se dit, de ce qu'elles laissent dire tous les jours.
Donc vous, la solution que vous préconisez, on a bien compris, hein, l'embouteillage judiciaire que vous évoquez est évident, et puis je pense aussi à toutes ces adolescentes qui vivent du harcèlement, etc., qu'on pas forcément envie, les moyens de se lancer dans une bataille juridique, parce que c'est une bataille aussi. Mais donc, ça veut dire, quels seraient les moyens, justement, pour contraindre ces plateformes? Parce qu'on a quand même l'impression que ces plateformes, elles sont très puissantes. On essaye par toute nature d'essayer de les contraindre. On voit bien que fiscalement, déjà, on n'y arrive pas. Donc, quelles pourraient être les solutions? Vous partagez ça aussi, Benjamin Teinturier et Romain Pigenel, que la solution serait d'aller contraindre ces plateformes qui, pour la plupart, sont américaines, quasiment toutes, et qui semblent, comme ça, quasiment intouchables. Romain Pigenel ou Benjamin Teinturier?
Rapidement, déjà, bon, à aucun moment j'ai dit que la condamnation, et j'ai bien insisté, avec sursis de 10 personnes, allait régler le problème. Mais je pense que pour le coup, il n'y a pas une solution unique, il ne peut y avoir qu'un arsenal de solutions. Bah, je maintiens que la sanction pénale, elle est importante, parce qu'elle a quand même une valeur exemplaire d'une manière ou d'une autre. Après, il y a un double sujet par rapport aux plateformes. Moi, comme je crois que c'est un peu ce que disait Mélusine, je suis quand même méfiant sur tout ce qui consisterait à leur donner trop de pouvoir de police par rapport à la liberté d'expression. On a plein d'exemples à l'étranger des dégâts que ça peut commettre dans un autre sens. En revanche, il y a d'abord le sujet de leurs moyens de modération. Or, ce sont des entreprises qui ont d'abord mis des moyens pour le développement publicitaire, économique, et qui n'ont pas mis à l'échelle leurs moyens de modération par rapport à la place qu'a pris aujourd'hui le débat politique au sens large sur ces plateformes. Donc là, il y a un vrai sujet. Et il y a un deuxième sujet qui est la boîte noire de leurs algorithmes. On sait qu'aujourd'hui, l'immense majorité de ces plateformes l'information qui remonte, qui va devenir une tendance, un trending topic, comme on dit sur Twitter, est choisie et sélectionnée par les algorithmes, qui sont donc des règles de sélection et de classification de l'intérêt de l'information. Or, il y a un déficit, je dirais, d'explication de ces plateformes sur comment fonctionnent ces algorithmes, et notamment sur tous les biais qu'elles peuvent avoir. Donc, c'est un vieux débat qui dure depuis des années, sur lequel il y a eu des petits progrès. Mais aujourd'hui, tant que la transparence ne sera pas faite, et peut-être aussi que ces règles algorithmiques seront sujettes à un débat démocratique réel, on ne pourra pas régler de manière claire et nette ces problèmes.
Oui, je crois d'ailleurs que sur la question de la modération, qui est une question centrale dans la question du harcèlement en ligne, puisqu'on le rappelle, des modérateurs sont a priori des humains. Alors il peut y avoir des algorithmes, mais il y a aussi des humains, des hommes et des femmes qui sont donc confrontés à ces milliers de messages et qui doivent en quelques secondes décider s'ils peuvent passer en ligne ou ne pas passer en ligne. Et je crois savoir que la plupart des plateformes utilisent des prestataires de services pour faire appel à ces modérateurs, qu'on ne sait pas exactement combien ils sont, qu'on ne sait pas exactement dans quel endroit du monde ils sont, et qui d'ailleurs, je crois que eux-mêmes n'ont pas vraiment le droit de s'exprimer sur leurs conditions de travail. Il y a eu beaucoup d'études et de cas qui ont été faits par rapport à ces modérateurs-là. Donc on comprend bien effectivement la volonté de contraindre un peu plus les plateformes, mais ça menacerait aussi d'une certaine manière notre liberté peut-être d'expression. Voilà donc la question complexe que je vais poser à Benjamin Teinturier. Comment donc arriver à mener une action efficace contre cette haine en ligne sans constituer une atteinte à nos libertés fondamentales sur Internet ?
Oh là là, moi j'ai pas de solution clé en main malheureusement, surtout que ce dont on se rend compte dans cette discussion depuis le début, c'est que il y a un enjeu majeur autour du nombre et de l'affluence, de la quantité astronomique de qui font de harcèlement, mais la quantité astronomique de tweets, de messages publiés qui nous inviterait à donner la responsabilité de la modération à un algorithme. Mais bon, effectivement, c'est pas d'abord vous avez des faux négatifs très nombreux et la reconnaissance automatique de discours de haine est quand même assez complexe, hein, ça fonctionne pas encore très très bien. Et puis deuxièmement, vous avez un point éthique qui est que on ne peut pas laisser la modération d'un réseau social à simplement un algorithme. Donc on est condamné à devoir devait savoir sur quel pied danser entre modération algorithmique qui propose des contenus à des modérateurs humains cette fois-ci. Bon, c'est très très compliqué comme
Ça fait partie de toute la problématique. C'est bien pour ça, effectivement, qu'il n'y a pas de réponse évidente. La question est de savoir, voilà, quelles sont les différentes solutions qui sont explorées et d'en comprendre ses limites. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, justement, que cet anonymat, finalement, il est aussi menacé, puisqu'on se retrouve quand même dans une société de la surveillance, on est de plus en plus tracé, de plus en plus ciblé, suivi au moindre pli. Est-ce que cet anonymat, pour vous, de toute façon, il est amené potentiellement à disparaître?
Alors, ce qui est sûr, c'est que nos traces numériques, la façon dont on laisse ces traces, on en laisse de plus en plus, si vous voulez. On commence à voir apparaître des débats autour de la reconnaissance faciale, des caméras à reconnaissance faciale en France. Il y a les précédents à Nice, etc. Tout ça est bien connu. Ce qui augmente le nombre de traces numériques laissées. Parallèlement à ça, il y a un développement assez important quand même de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones. Aujourd'hui, faites le test, utilisez un outil qui s'appelle PIMEYES, P-I-M et EYES comme œil en anglais. Vous mettez une photo de vous et PIMEYES vous sort en quelques secondes les autres lieux du web, d'autres sites du web où il y a une photo de vous. Bon, ça témoigne de les incroyables progrès qu'on a fait dans la reconnaissance faciale. Et si vous voulez, l'ajout de toutes ces traces numériques qui sont des fois donc en ligne, hors ligne, ça fait peser quand même un risque sur l'anonymat, sur la façon dont on peut être tracé. Ça, c'est un premier point. Si vous voulez, c'est un argument quantitatif. Maintenant, il y a un argument qualitatif qui irait dans le sens inverse, c'est que ces données, à un moment donné, il faut les croiser. Et c'est ça que c'est compliqué. C'est là où les choses sont compliquées. Donc, il y a quand même deux forces comme ça qui s'opposent sur la question de la préservation de l'anonymat et de la reconnaissance des gens sur Internet et dans la rue.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire, là, comme vous le disiez, entre déjà la foule, hein, même la foule qui manifeste, et c'est là où il y a d'ailleurs des ambitions, à un moment donné, de reconnaissance faciale dans les rues pour un peu mieux identifier ceux qui manifestent, ceux qui ne devraient pas manifester, et cette volonté aussi de lever l'anonymat. D'ailleurs, Benjamin Teinturier, c'est ça que vous racontez aussi, vous essayez de questionner les relations entre la foule, l'espace public et l'espace en ligne.
Ce qui est, au point de vue, si on parle sociologie des mouvements sociaux et si on fait le lien avec la question de l'anonymat, à nouveau, cette idée d'anonymat relatif, si vous voulez, qu'on utilise depuis le début, depuis cette déclaration dans votre mixage où cette personne disait qu'on avait les moyens mais que c'était matériellement compliqué de savoir qui avait fait quoi, qui avait harcelé, elle plaide en faveur d'une espèce de concept d'anonymat relatif où finalement les harceleurs sont noyés dans la foule ou les militants sont noyés dans la foule. Et en vérité, ce que les réseaux sociaux amènent et dans le militantisme, dans les mouvements sociaux, et ce pourquoi peut-être aussi ils sont importants pour la démocratie et pour le débat démocratique, c'est que quand vous discutez sur les réseaux sociaux, vous créez une conversation sur telle ou telle image virale, après une manifestation, telle image de violence, que sais-je, vous évoluez dans un anonymat relatif, puisque vous êtes noyé dans une foule de discussions, et on sait, quand on étudie les mouvements sociaux et la façon dont les mouvements hors ligne et en ligne dialoguent, que ces discussions après les mouvements sociaux ou pendant les mouvements sociaux sont très importantes, donnent de l'énergie à ces mouvements.
Et l'usine ?
Je suis tout à fait d'accord pour considérer que cette volonté, notamment gouvernementale, de lever l'anonymat sur Internet, elle s'inscrit complètement dans la lignée d'un processus d'augmentation de la surveillance sécuritaire, de la surveillance des actions de chacun des citoyens. Pour moi, ça va encore plus loin parce que cette volonté de lever l'anonymat, c'est aussi la première fois qu'on dirait il faut que quand quelqu'un s'exprime, quand quelqu'un parle, on doit pouvoir immédiatement l'associer à son état civil. Parce que on parle jusqu'à présent de comportements qui sont délictuels, donc le harcèlement, la violence sur Internet. On parle de prise de position politique, de militantisme. Mais en réalité, sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, il y a également énormément de prises de parole beaucoup plus triviales, mais qu'il n'y a réellement aucune raison d'associer à un état civil. Je pense que ça soit de la blague stupide au récit d'un fantasme sexuel, d'une anecdote d'enfance. En fait, ça serait la première fois qu'on irait dire, en tout cas dans une démocratie, la première fois qu'on dirait, quand quelqu'un s'exprime, quel que soit le sujet de son expression, même s'il raconte quelque chose de complètement anecdotique, il faut que l'État soit capable de dire qui l'a dit, où est-ce que cette personne travaille, comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Donc on voit bien que les possibilités qui seraient offertes par une telle transformation législative sont énormes, et en réalité, je pense qu'on est incapable d'en mesurer la portée sur des évolutions législatives futures, sur notre manière de vivre également, puisque je pense que si demain on trouvait une solution technique qui me semble très difficile à trouver, mais imaginons que l'État soit capable d'imposer à des plateformes américaines de rendre obligatoire l'identification sur Internet, donc ce qui signifie, entre parenthèses, transmettre des papiers d'identité à une entreprise privée américaine, en fait, ce que ça changerait dans les pratiques, je pense, serait assez énorme, puisque soit les personnes arrêteraient de s'exprimer, soit en fait elles iraient chercher des solutions de contournement, des plateformes moins exposées, peut-être que ça développerait l'usage des VPN. Enfin, on peut imaginer, c'est tellement quelque chose de pas naturel comme encadrement qu'on peut imaginer que les gens développeraient des stratégies de contournement, parce qu'en fait c'est totalement naturel de pouvoir s'exprimer sans être identifié.
Vous avez évoqué le VPN, hein, c'est juste un petit serveur qui permet de rendre un peu illisible la connexion, ou du moins d'arriver à se connecter par un pays étranger quand on est dans un pays où justement il y a une forme de censure qui s'exerce. Et on entend bien ce que vous dites, peut-être que celles et ceux qui demandent comme ça face à l'émotion que représente justement le cyberharcèlement, la levée de l'anonymat, se rendent peut-être pas compte que ça serait peut-être une perte d'acquis démocratique. C'est votre point de vue aussi, Romain Pigenel ?
Juste une petite correction avant de vous répondre. Il n'y a pas actuellement de volonté gouvernementale, pour être précis, de mettre fin à l'anonymat, puisque le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, s'était même expressément levé contre cette idée. Donc, heureusement, le sujet n'est pas posé sur la table. Mais si jamais ça finissait par arriver, ça aurait deux conséquences dramatiques. effectivement, d'abord, comme c'était dit à l'instant par Mélusine, de mettre entre les mains des GAFA, qu'on aime bien critiquer par ailleurs, un énorme fichier qui permettrait après toutes les manipulations possibles, comme on l'a vu notamment avec l'affaire Cambridge Analytica, ou pour des questions de ciblage publicitaire, de connaissance de notre vie intime. Donc ça serait une catastrophe absolue. Et puis surtout, ce qu'on prend peu en compte, c'est que ça graverait dans le marbre l'entièreté de la vie d'un individu. Qui se souvient de ce qu'il a écrit sur Facebook il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, vous auriez tout d'un coup une espèce de, en tout cas pour les personnes qui seraient dans ce système, de livre comptable, de l'entièreté de vos expressions en ligne sur l'entièreté d'une existence. Donc c'est un délire totalitaire qui n'a même jamais été, je crois, imaginé. Et je pense au fond que ceux qui réclament de mettre fin à l'anonymat n'ont pas vraiment de système alternatif, parce que quand on pose l'équation sur la table, elle est inacceptable. Il y a quand même un mot que je voulais ajouter au débat, et je crois qu'il n'y a pas été pour l'instant prononcé, c'est celui de l'astroturfing.
Définissez-le, Romain.
L'astroturfing, c'est l'ensemble des pratiques, notamment en ligne, qui permettent de simuler une expression d'opinion comme venant de la population, alors qu'elle est l'émission de messages d'un petit groupe de militants organisés. Donc typiquement, c'est par exemple créer 500 faux comptes pour utiliser le même hashtag et faire croire que une indignation par rapport à un sujet d'actualité est très largement partagée, alors que, comme je viens de le dire à l'instant, c'est une manipulation organisée. Et quand on regarde les polémiques politiques en ligne, souvent les plus actives, dans beaucoup de cas, on se rend compte qu'elles sont très souvent amorcées ou portées numériquement par un petit nombre de comptes ou par un grand nombre de comptes, mais organisés, qui, de toute évidence, relèvent de réseaux militants ou d'agences de communication, etc. Et j'avais évoqué cet aspect au tout début de l'émission. Je pense que c'est important d'avoir à l'esprit, quand on parle en tout cas de haine en ligne, de désinformation, il y a derrière des réseaux militants organisés, pas forcément de partis politiques traditionnels, mais aussi, et ils ne comptent pas pour rien dans les phénomènes au nom desquels on demande la levée de l'anonymat.
Vous voulez dire que c'est un combat qui dépasse le simple cas de personnes individuelles, que c'est des problématiques plus structurelles avec des réseaux plus organisés, c'est bien ça?
Mais écoute, c'est un secret de polichinelle que même les partis politiques traditionnels, pendant les campagnes, et là on va arriver dans une année de campagne présidentielle où ces phénomènes vont exploser, organisent des équipes de militants sous pseudonyme pour aller porter des argumentaires plus sales ou critiquer les adversaires, comme ne pourraient pas se le permettre à visage découvert les élus ou les candidats. Il faut, je crois, là-dessus, pas avoir d'hypocrisie et bien voir que il s'agit pas simplement d'internautes isolés chez eux qui se protégeraient derrière un pseudonyme pour tout seul se livrer à ce genre de d'actes. Il y a une part importante, y compris dans l'amorçage des polémiques, de réseaux organisés.
C'était important à rappeler. Effectivement, Benjamin Taturé, vous le souhaitez réagir. Seule petite contrainte, réponse courte.
Oui, effectivement, le mot a raison d'être mis sur la table, et pour bien comprendre qu'il n'y a pas le harcèlement comme problématique derrière l'anonymat. Maintenant, est-ce que ça pose une menace pour la démocratie, l'astroturfing? Effectivement, c'est avéré. Il y a un mathématicien qui travaille à Polytechnique, s'appelle David Chavalarias, qui a montré que en 2017, au moment de l'élection présidentielle, vous aviez sur 4chan, ce réseau social américain, des attaques ciblées en direction des électeurs d'Emmanuel Macron. Pour les faire ne pas voter, que de fait Marine Le Pen soit élue. Maintenant, est-ce que ça présente une menace pour la démocratie? On n'a pas énormément de chiffres sur l'impact de ces campagnes-là. Ce qu'on sait, c'est que par rapport au volume gigantesque que représentent les réseaux sociaux, il est difficile d'estimer que les personnes changent d'avis parce qu'ils auraient vu des posts truqués comme ça. On estime à peu près, c'est une étude 2017 de Stanford et NYU, qui estime que à peu près 0,1% des gens auraient changé d'avis au moment de l'élection de Donald Trump, donc un an avant, parce qu'ils auraient été soumis à des contenus, à du contenu trafiqué. Oui, très très faible.
Merci pour vos déclarations, puis merci à vous trois. C'est déjà la fin de cette émission. Le sujet est vaste, mais passionnant. Benjamin Tinturier, on attend donc la publication de votre thèse. Vous devez donc la terminer. On suivra ça avec attention. Romain Pigenel, je le rappelle, vous êtes enseignant en communication politique à Sciences Po. Et puis, Mélusine, on peut vous suivre sur Twitter ou même sur votre blog Mediapart. Ça a été ce petit baptême de la radio, tout en conservant votre anonymat?
Oui, super. Alors, j'ai beaucoup moins l'impression d'être dans Enquête Exclusive que début de l'émission. Je vous remercie.
Et vous avez accepté votre voix et on vous encourage d'ailleurs à continuer à la suivre. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Anna Fulpin, Vincent Marcelin, Rémi Baye, Audrey Dugas et Roxane Poulain. À la technique, c'était Dimitri Baz et à la réalisation, Louise André.